Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard.
Bonjour à toutes et à tous. D'abord, il y a eu l'Indonésie, racontée dans un premier roman en 2000 sous le titre Le Tour du propriétaire. Ensuite, la France et dans le désordre, Madagascar, Pondichéry, la Nouvelle-Zélande, la Russie, l'Italie, le Canada et le continent africain. En 19 ans et 13 livres, notre invité aujourd'hui est donc un écrivain nomade qui traverse les frontières géographiques et littéraires puisqu'il explore autant la forme romanesque que le récit épistolaire, auquel s'ajoute désormais le genre de la nouvelle, comme en témoigne ce recueil récent paru aux éditions POL sous le titre « Attache le cœur ». Bonjour Nicolas Fargue.
Bonjour Catherine.
Un recueil de 15 nouvelles donc, sous-titré « Instantané camerounais », où 15 personnages racontent un instant de leur vie, un sentiment, et font entendre leur voix singulière avec tous pour point commun le Cameroun. Quel est votre lien, vous, Nicolas Fargue, avec le Cameroun, où je crois vous avez grandi, n'est-ce pas?
Oui, en partie grandi. Mes parents y étaient enseignants. Ma mère à l'université de Yaoundé 1, pour ceux qui connaissent, à Ngouaïkélé. Elle enseignait l'espagnol et mon père était démographe. Donc, ils travaillaient l'un et l'autre pour l'une pour l'État camerounais, l'autre pour l'État français. Et donc, j'étais un fils de coopérant.
Et vous aviez quel âge?
J'avais à l'époque 4, 5, 6 ans, voilà. Mes premiers souvenirs conscients, c'est le Cameroun, tout simplement.
Et ensuite, vous y avez travaillé?
J'y suis retourné beaucoup plus tard, en 2012, pour y passer 3 ans, moi-même en tant que coopérant, à l'Institut français d'Yaoundé.
Et de toutes ces expériences, on l'a dit, l'Indonésie, Madagascar et la Nouvelle-Zélande, par exemple, on pourrait d'ailleurs aussi ajouter le Liban, où vous avez vécu. Qu'est-ce que le Cameroun vous a apporté comme autre vision du monde?
Ça a été, je pense, l'expérience originelle de l'altérité pour moi qui a décidé de beaucoup, beaucoup de choses par la suite. J'étais enfant, j'étais blanc minoritaire dans une classe où la majorité des enfants étaient noirs. Et puis ça a été aussi là où mes parents se sont séparés. Et ma mère a fait la connaissance à l'époque d'un monsieur qui était camerounais et qui a beaucoup compté pour changer tout ce que... Dans les années 70, un petit enfant blanc peut percevoir du monde d'un point de vue occidental. Voilà, c'était quelqu'un de très éloquent, très cultivé, qui m'a, je pense, pour toujours orienté vers la tentation d'aller voir autrement. Donc le Cameroun est fondamental d'abord géographiquement et puis surtout dans la façon de voir le monde. Mon père déjà et ma mère étaient des gens très ouverts, l'un comme l'autre, mais je crois que l'aboutissement de leur ouverture théorique, ça a été de vivre comme ça, loin de France, très tôt.
Et sachant que vous connaissez d'autres pays du continent, le Gabon par exemple, dont... Vous revenez, en tout cas, il n'y a pas si longtemps. Vous diriez qu'il y a un esprit camerounais?
Connaître est un grand mot. Hein. J'ai voyagé dans pas mal de pays. Je pense que le Cameroun est assez unique dans cette zone en Afrique centrale. D'abord, c'est un pays qui culturellement est très particulier. Il y a du nord au sud des ethnies, des langues très très différentes. Vous avez des Haoussa au nord, vous avez des Bantous au sud avec 250 langues dans ce pays. Ne serait-ce que la région de l'ouest, en pays Bamileke, vous avez je ne sais combien de dizaines de langues différentes. C'est un pays aussi où vous avez de grands artistes dans tous les domaines. C'est un pays aussi où il y a un vocabulaire aussi, une façon d'utiliser le français qui est bien particulière, ce qu'on appelle le camfranglais par exemple. Et en même temps, c'est aussi un pays qui est un pays difficile pour beaucoup de gens qui n'y vivent pas la vie qu'ils voudraient y vivre. Et donc, c'est un peu de ça qu'est né ce livre. C'est nous en Occident, on n'a pas du tout idée des seuils de tolérance que peuvent être celui de énormément de gens dans le monde, je dirais de la plupart des pays dans le monde. Et le Cameroun en est un parmi d'autres.
Vous disiez, Nicolas Fargue, que c'était le pays où étaient nés peut-être vos premiers souvenirs d'enfants, où vous êtes retourné donc jusqu'en 2015.
J'ai passé 3 ans, oui, 2012-2015.
Et en même temps, c'est pas le premier pays sur lequel vous avez écrit.
Non.
Bien que dans le précédent roman... Je ne suis pas une héroïne. Il me semble que Gérald, la protagoniste, était originaire
du Cameroun.
Ouais. Est-ce que c'est à l'écriture de ce roman précédent, justement, que vos souvenirs sont revenus à la surface?
Non, je pense que c'est à la faveur des 3 ans que j'y ai passé. Alors, vous avez raison, j'ai passé 4 ans à Madagascar, par exemple. Mais je n'ai pas eu cette même révélation en revenant au Cameroun adulte. Je dirais pas que c'est l'enfance qui m'est remontée à la surface, c'est le sens caché derrière tout ça. C'est-à-dire que d'une certaine façon, je suis allé me retrouver là-bas. Je n'aime pas utiliser des mots, des images un petit peu lyriques comme ça, mais c'est quand même ce qui s'est passé. J'y ai vécu intensément. J'avais le sentiment d'une certaine façon d'être un peu au centre du monde. Que les choses c'était là où elles se passaient. C'était pas à New York, c'était pas à Tokyo, c'était pas à Paris, c'était à Yaoundé pour moi. C'était à Douala. C'était dans ce pays où j'ai fait ma vie pendant 3 ans, où j'y ai rencontré beaucoup de gens, dont beaucoup sont toujours des amis très proches. Et je pense que toutes les questions que je me pose dans mes livres depuis toujours ont été ici, je dirais, grossies par la loupe de mon expérience quotidienne du Cameroun. Donc voilà, c'est le retour sur les lieux de l'enfance, sur les lieux originels.
Retour au pays natal, oui. Presque d'une certaine façon, qui donc en effet donne lieu aujourd'hui à ce recueil. Un recueil qui donc par principe est une succession de textes courts. Est-ce que le livre est rapidement né sous cette forme? Est-ce que vous aviez en effet envie d'un récit polyphonique où chaque narrateur et narratrice fait entendre sa voix un peu comme un monologue sur scène?
Oui, alors en fait, sous cette forme-là, c'est-à-dire des nouvelles très courtes à la première personne du singulier, où j'essaye vraiment de me mettre à la place de la personne qui parle, homme, femme, jeune, vieux, noir, blanc, peu importe, c'est comme ça que je suis venu à l'écriture vers l'âge de 25 ans. C'est par des petits exercices comme ça. Alors je le faisais à l'époque avec des musiciens et des écrivains existants. Là, je l'ai fait avec des anonymes, mais c'est cette forme-là qui m'est venue spontanée. En ayant passé 3 ans au Cameroun, lorsque je suis rentré, je me dis, il va nécessairement naître quelque chose de cette vie-là. Je n'ai pas du tout écrit au Cameroun. Pendant 3 ans, je n'ai pas écrit la moindre ligne, ni sur le pays, ni sur autre chose. J'ai pas écrit, j'ai vécu. Et en rentrant, je savais qu'il en viendrait quelque chose. Il y a eu un roman avec, dont l'héroïne est une jeune française d'origine camerounaise. Et puis, il y avait ces portraits dont j'avais très vaguement l'idée, de l'ébauche, comme ça, sans du tout imaginer pouvoir en faire suffisamment afin de les rassembler, d'en faire un recueil de nouvelles. J'aurais pu en faire beaucoup plus, j'aurais pu en faire 50. J'ai décidé d'en faire un format léger, kaléidoscopique, comme ça, voilà, il y en a 15. Et ils sont venus, je dirais, ils ressemblent à mon expérience du Cameroun, c'est-à-dire si proches que le filtre entre moi et le personnage est quasi invisible.
Donc il y a eu une forme d'imprégnation pendant ces années,
d'identification parfois,
au Cameroun, qui ensuite donc donne lieu à ces 15 voix, Landry, Pascaline, Gilberte, Esther, Julien, Jean-Fils, Marie-Marthe. Comme vous le disiez, ce sont des personnes très différentes dans la couleur de leur peau, dans leur âge, dans leurs conditions sociales, de la diaspora, qui ont envie de partir, qui ont envie de rester. Est-ce que c'est aussi un certain nombre de personnes que vous avez croisées, qui vous ont marqué?
Il y a des choses réelles. Par exemple, il est fait référence à un moment à un épisode lié à la compagnie aérienne camerounaise qui est un épisode avéré.
Alors c'est des gens
qui sont restés coincés à Roissy, voilà, pendant toute une semaine sans la possibilité d'être logés ni rien du tout parce que l'avion était cloué au sol, tout simplement. Et on n'en a parlé nulle part parce que c'était quand même quelque chose d'assez considérable. 3 fournées de passagers se sont retrouvés en rade à Roissy pendant une semaine. Imaginez. Et une autre personne existe, par exemple, il est question d'une Claude à l'intérieur, elle existe, elle s'appelle Claude Njike. Elle est écrivaine, elle vit dans la région de Bangangté, à côté de, dans le pays Bamileke camerounais. On l'appelle la Reine Blanche, elle est très connue là-bas, ça fait presque 50 ans qu'elle y vit. Elle a été la 25e femme d'un chef Bamileke, une européenne agrégée d'histoire ou géographie, je ne sais plus trop, qui a d'avéré également dans ce livre un jeune garçon qui un jour m'a raconté une histoire, c'est un jeune coopérant français, qui s'est fait dépouiller dans un stade à Yaoundé. Raconté son histoire.
Oui, alors ça, voilà. C'est une nouvelle assez sidérante, parce que, en effet, c'est un jeune Français très idéaliste, qui veut absolument s'intégrer à la vie locale, et donc il décide d'assister à un match de football, parce qu'évidemment, là-bas, l'équipe, les Lions, n'est-ce
c'est
pas?
C'est les Lions indomptables, bien sûr.
Ouais. Voilà, ils sont formidables, et puis il se trouve qu'il est le seul blanc, finalement, dans la tribune, et que, au fur et à mesure, les esprits s'échauffent à cause du match.
Bah, du match que les Lions ont perdu, donc.
Et de fait, il se retrouve agressé. Mm-hmm. On lui vole ses affaires, portables, portefeuilles.
Il se retrouve
pire,
à poil, tout simplement.
On le dépouille littéralement de ses vêtements. Mm-hmm. Et il se retrouve au milieu du terrain, hué par la foule. Donc ça, c'est
pire que hué. Les gens rient.
Ah oui.
Il y a 10 000 personnes qui se marrent en le voyant traverser la pelouse avec son caleçon déchiré pour échapper à ses assaillants. Voilà, histoire avérée aussi.
On l'entend avec vous, Nicolas Fargue, quand vous nous décrivez chacun de ces personnages, et on s'en rend compte à la lecture, c'est que qu'ils soient camerounais ou pas d'ailleurs, ils portent tous un regard assez, alors peut-être pas sévère, mais un regard un peu sombre sur le pays. L'appât de l'argent, le statut des femmes, le sexe, le racisme.
Le rapport noir-blanc.
Le rapport noir-blanc, la faillite économique. Oui. C'est quand même un portrait un peu désenchanté du Cameroun, non ?
J'écris désenchanté de toute façon. Sur mes 13 livres, ça ne veut pas dire que je ne peux pas parler de belles choses aussi. Mais je pense que le monde est difficile, le monde est violent. Y compris dans nos sociétés d'ailleurs, confortables matériellement, mais violentes dans les rapports humains. Il y a des pays où la violence s'exerce de différentes façons. Là, je parle de violence intrafamiliale. Des histoires de dot, des histoires d'enterrement peuvent donner lieu à des explosions dans les familles. La violence aussi de ne pas pouvoir s'exprimer. Je parle même pas en termes politiques, je parle des grands pays de pudeur, où vous avez d'abord des codes sociaux à respecter et où on ne dit pas ce qu'on veut à n'importe qui. On respecte les aînés, on respecte les parents, on respecte les professeurs, on respecte tout le monde, on ne peut pas. Et donc moi, avec ce livre, je donne la parole à des gens qui ne la prennent pas forcément.
Et c'est une parole sincère.
Et c'est une parole sincère. Et donc, c'est un déversoir de, je dirais pas de frustration, mais d'impossibilité de s'accomplir parfois, ce livre. Qu'est-ce qui nous touche le plus ? C'est évidemment ce qui nous fait plaisir, mais c'est aussi ce qui nous ronge. Je sais mieux parler de ce qui nous ronge que de ce qui nous fait plaisir. Il y a des gens qui le font très bien. Il y a des gens qui pourront vous faire une carte postale du Cameroun. C'était pas du tout mon intention.
Alors le Cameroun, il existe aussi à travers ceux qui ont quitté le Cameroun. Mm-hmm. Et une des nouvelles très touchantes d'une femme qui est partie, Marie-Marthe.
Oui.
Et si vous voulez bien, dans votre voix, Nicolas Fargue, on va écouter un extrait de cette nouvelle où on entend la voix de Marie-Marthe.
Oui, avec grand plaisir. Alors je précise juste, des Marie-Marthe, on en croise chaque jour, dans le métro, dans le bus, dans les couloirs des endroits où on travaille. Ce sont des femmes dont on ne se doute pas de ce qu'elles ont pu vivre, de combien aussi elles sont puissantes, fortes, elles sont discrètes, elles ne veulent pas faire tâche, elles sont toujours impeccables. Jamais la moindre vague, mais on ne sait pas tout ce qui se passe. La voici donc, elle s'appelle Marie-Marthe.
Et elle vit à Paris.
Elle vit en banlieue parisienne, en lointaine banlieue. Où est-ce qu'on en serait, nous, si on possédait tout ce qu'ils ont ? Qu'est-ce que ce serait chez nous avec des transports publics réguliers, bien entretenus et qui arrivent à l'heure, avec des hôpitaux fiables et gratuits, avec des médicaments remboursés par la Sécu, des universités dignes de ce nom pour nos enfants, de l'emploi, des logements décents, des droits et de la justice pour tous ? Il y a des matins comme ça où je me demande ce qui a bien pu passer par la tête de Dieu lorsqu'il a pris ses décisions. Comment a-t-il pu maudire ce peuple plein de jus que nous sommes et pourri gâter des gens aussi fades, mal polis et mal propres que ceux-ci ? Cette tête longue qu'ils font tous dans le RER du matin au soir, je ne comprends pas. Ça me dépasse. Être protégé depuis la naissance jusqu'à la mort par votre système politique, comme vos parents avant vous l'ont été et comme vos enfants le seront aussi demain. Cela ne suffit donc pas pour vous donner le sourire ? Et tous ces magasins de vêtements qui remplissent leurs trottoirs et leurs centres commerciaux, ça ne les empêche pas de s'habiller tristes, mal et râpés. Regarde-moi tous ces pantalons et ces sacs noirs. Regarde-moi tous ces pardessus tout gris et ces souliers usés. Un peu de couleur, ça leur ferait mal aux yeux ou bien ? Et l'eau courante à l'intérieur de leurs appartements, toutes leurs douches et leurs baignoires avec eau chaude et eau froide à volonté, est-ce qu'ils auraient seulement l'idée de s'en servir de temps en temps pour ne pas sentir aussi mauvais ? Quelqu'un leur a-t-il dit que nous, en Afrique, dans les quartiers, dans cette Afrique à laquelle leur télévision et leurs dirigeants leur font croire et veulent nous faire croire, à nous, Africains, si arriérés, si sales et si miséreuses, quelqu'un leur a-t-il seulement dit qu'on n'y tolère pas un corps qui se néglige ? Au point de déshabiller de force en place publique les puants invétérés et de les laver au jet comme un vieux taxi au car wash pour leur apprendre à respecter cette terre que nous partageons tous. Leur a-t-on dit que même avec nos robinets coupés tout au long de l'année par la Camerounaise des eaux, on parvient à garder impeccable matin et soir les corps et le linge d'une famille de 6 ou 7 enfants ? Si au moins ils étaient juste sales, ces gens-là. Sales, mais avec de bonnes manières. Cette femme enceinte qui est entrée dans le wagon tout à l'heure, peut-on m'expliquer pourquoi personne ne lui a laissé sa place pour qu'elle s'assoie ? Pourquoi tout le monde a fait semblant de regarder ailleurs dès qu'elle est entrée et qu'elle s'est mise à chercher un regard compatissant parmi les passagers en mettant timidement son ventre en avant pour qu'on voit bien dans quel état elle était ? Puisque si tu n'insistes pas lourdement pour être vue dans ce pays, personne ne va te regarder. Pourquoi est-ce moi qui ai finalement dû me lever pour lui laisser ma place alors qu'il y avait ce jeune avachi avec son sac sur la banquette d'en face ? J'ai été à deux doigts de le lui dire à ce garçon. Puisque toutes ces soi-disant grandes personnes qui nous entourent ne se lèvent pas, mon jeune, c'est toi qui vas le faire pour laisser ta place à cette femme. Parce que dans un monde normal, c'est un petit comme toi de se lever en premier pour laisser la place à ses aînés. Surtout s'il s'agit d'une femme qui s'apprête à donner la vie. Parce qu'en Afrique, mon fils, eh bien, je n'aurais même pas eu besoin de te le demander. Tu te serais levé tout de suite, tout seul. Personne n'aurait eu besoin de te le demander. Et si par le plus grand des hasards, tu n'avais pas eu cette élémentaire présence d'esprit par respect pour une aînée, je te garantis que les autres passagers ne se seraient pas gênés pour te faire la leçon. Et crois-moi, tu n'aurais pas traîné. Pourquoi je ne lui ai rien dit à ce gamin ? Parce que je suis noir ? Que je sois noir et que je me sacrifie pour éviter un petit moustique blanc de se lever ? Oh non, ce n'est pas la question. La question de ma couleur dans ce pays, je l'ai réglée toute seule depuis longtemps. Puisque si tu ne le fais pas, personne ne la réglera pour toi.
Merci beaucoup Nicolas Fargue. Vous êtes bien à l'écoute de Littérature sans frontières sur RFI en compagnie aujourd'hui de l'écrivain Nicolas Fargue avec qui nous parlons de ce nouveau livre, un recueil de nouvelles paru aux éditions POL sous le titre « Attache le cœur ». Que faut-il entendre par cette expression ?
Ah oui, c'est vrai, voilà une expression qu'en France, on ne comprend pas. Si vous allez au Cameroun, si vous allez au Congo, si vous allez au Tchad, si vous allez en Centrafrique, si vous allez au Gabon, vous dites « attache le cœur », les gens comprendront. Le vrai sens, s'il y en avait un vrai, ça serait celui de « protège-toi, serre les dents, ne t'énerve pas, calme-toi, prends la douleur, ne perds pas tes esprits. »
C'est une
tu
leçon
souffres.
De vie alors.
C'est une leçon de vie, c'est vraiment l'équivalent du « tiens bon, c'est dur, mais ça va passer ». Au Cameroun, il y a une expression pour dire ça aussi, c'est « asia ». Ça, c'est vraiment patience. Quand vous, si vous traversez une période difficile ou si vous êtes malade, si vous avez le palu, « asia ». Voilà, « attache le cœur », c'est un peu « asia ».
Alors, ces expressions camerounaises, elles sont très présentes. Il y a d'ailleurs un glossaire pour ouvrir le recueil, pour que le lecteur français ne soit pas totalement perdu. Pour vous, c'était essentiel, évidemment, j'imagine, d'utiliser ces mots de la vie quotidienne.
Alors, je voulais surtout pas tomber dans quelque chose de pittoresque, surtout pas. C'est-à-dire que je n'ai pas fait un... Vous avez vu, là, je viens de lire un extrait, il n'y a pas de mots, on ne comprend pas. Il y a parfois, en revanche, des personnages qui, eux, je dirais, sont pris sur le vif au Cameroun, au bar, par exemple, où là, il va y avoir des mots. Par exemple, un mot comme, je sais pas moi, les babouches. Nous, on va dire les tongs, mais là-bas, les babouches, c'est les tongs. Voilà. On va dire, si un bâton de manioc, c'est le bobolo, par exemple. Là, il faut que je le dise, parce que si je vais dire le bâton de manioc, ça va sonner faux. La personne ne va pas dire, donne-moi un bâton de manioc. Maman, donne-moi le bobolo. Ça va être plutôt comme ça. Donc, je vais garder mes... Sans non plus aller trop loin dans l'accumulation d'un vocabulaire entre guillemets, entre 10 000 guillemets, exotique. Mais en revanche, voilà, mettre une vingtaine de mots au début, qui sont des mots clés, même, moi ça m'amusait de les mettre, parce que ce sont, voilà, un call boxer. Est-ce que c'est ce que c'est qu'un call boxer?
Non, j'ai même oublié déjà.
Ben, c'est le vendeur de crédit téléphonique, voilà. Vous avez, ce qui est intéressant surtout au Cameroun, c'est que vous avez beaucoup de mots qui sont hérités de l'anglais, parce que le pays est bilingue, comme vous le savez. Même un mot comme kaba, le kaba qui est vraiment la robe pagne que vous mettez en toutes circonstances. Ça vient d'où? Moi, j'ai appris ça il y a pas longtemps. Ça vient des colons anglais qui, au 19e siècle, sont arrivés et ont été choqués par la nudité des gens et ont dit cover, cover. Couvrez-vous, cover. Et cover est devenu kava, kava, kaba, kaba, kaba. Et aujourd'hui, le kaba, c'est la robe. Voilà, donc je trouvais ça important de dire tout simplement que le français est une langue vivante, polymorphe, qu'il n'y a pas le français de France et le reste. Il y a le français de France, le français du Cameroun, le français du Québec, le français de partout où il se pratique, et que c'est une langue infiniment enrichie par toutes ces façon de l'interpréter et de la vivre.
J'ai l'impression qu'avec ce livre aussi, vous avez pu explorer de nouvelles façons d'écrire.
Oui, c'est ça. C'est presque une récréation. Si vous voulez, j'ai mis à l'épreuve, au défi, mon oreille musicale, j'ai envie de dire. C'est que de la musique. Quand vous entendez quelqu'un parler ou que vous voyez bouger, vous avez un corps et puis vous avez un ton qui est lié au vocabulaire qu'il emploie et à la façon de porter ce vocabulaire. C'est une musique. Quel mot va-t-on choisir? Il n'y a pas plus sismographique que le choix d'un registre. Là, je me suis dit, bah écoute, enlève toute la narration pour ne garder que la façon de parler. Tes nouvelles, ça ne va pas être du passé simple avec une progression dans la nouvelle comme on l'apprend presque à l'école. J'ai envie de dire quelque chose d'un peu scolaire avec des personnages, une mise en place, un point d'orgue et une chute. Là, j'ai envie de dire, c'est le flux d'une parole, un segment de flux d'une parole à un moment donné.
Quelque chose qui se rapproche aussi beaucoup du théâtre, donc.
D'un théâtre qui flirterait avec l'improvisation. Par exemple, moi, j'aime énormément Bernard-Marie Coltès, qui est un auteur de théâtre, qui, d'ailleurs, joue énormément sur le registre, sur une mixité du registre très écrit, très poétique et très oral. J'aime énormément ça chez lui. Sauf que lui, c'est très écrit. J'ai envie de qualifier ce que j'ai écrit là du stade en dessous, du stade avant Coltès, qui est celui d'un langage qui ne serait pas encore poétisé. Ou s'il l'est, c'est de façon tout à fait involontaire.
Est-ce que c'est bizarre d'écrire un livre pour citer ce que dit l'un de vos personnages ici, en l'occurrence Claude?
Oui, alors je pense que chez Claude Njike, c'est arrivé peut-être tard. Alors je ne sais pas quand est-ce qu'elle a commencé à écrire. Moi, si vous voulez, j'ai le sentiment que c'est tellement intégré à ma vie que la volonté d'écrire est là depuis tellement longtemps et elle me paraît à la fois miraculeuse du fait que je puisse aujourd'hui dire « je suis romancier ». Parce qu'un jour, un éditeur a bien voulu m'adouber romancier en acceptant de me publier. Mais en même temps, c'est tellement ce que je vis et ce que je suis que je ne pourrais pas vous dire que c'est bizarre, c'est ma vie. C'est ma vie. Que ça me rapporte ou non de l'argent, que ça me permette ou non de vivre, peu importe, j'écrirai quoi qu'il arrive. Tant que j'ai de la tête pour ça, je le fais. Donc, c'est extraordinaire et c'est tellement naturel.
Alors, vous avez commencé de le dire en première partie. Le genre de la nouvelle, c'était à vos débuts où vous mettiez en scène des personnages réels. Et en effet, je crois que vous aviez écrit des nouvelles qui mettaient en scène Pierre Michon,
oui.
Qui mettaient en scène Jean Echenoz.
Oui, John Coltrane, Miles Davis, qui j'avais d'autres comme ça, Raymond Abellio, qui est un écrivain oublié, mais qui mériterait d'être relu. C'était ma...
Et c'était pourquoi? Parce que c'est des personnes qui vous ont donné envie d'écrire?
Non, c'est que c'est comme ça que s'est manifestée l'écriture. Parce que qu'est-ce que c'est que l'état d'écrivain pour moi? C'est percevoir par tous les sens. Et ma première perception était celle, j'avais l'impression de comprendre, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, de comprendre le rythme d'un personnage, de comprendre sa personnalité par le choix de ses mots. Et je me suis dit que spontanément, la meilleure façon pour moi de me mettre à l'écriture serait, de tout simplement parler, certes, de gens dont j'aime l'œuvre ou pas, ou dont le parcours m'intrigue, en tout cas. Où il y a eu des ruptures radicales, ou des paradoxes, des contrastes ou des paradoxes, je dirais, évidents dans leur comportement.
Vous pensez à qui, là?
Je sais pas, par exemple, Leclésio, qui avait une tête d'acteur hollywoodien, et qui était un type extrêmement
Timide.
Inhibé, perclus d'inhibition quand il a, en 1963, lorsqu'il signe le procès-verbal. Alors moi, je l'imagine, chez Gallimard, je n'étais pas né en 1963. Mais j'imagine le Clésio avec plein de gens qui viennent. Il a failli avoir le Goncourt, il a eu le Renaudot à la place, c'est son premier roman. Il fait, je sais pas, peut-être 1m88, 10, dans une époque où les gens sont plutôt petits en France. Il est blond, là où les gens sont plutôt bruns. Il a une tête d'Américain et il signe des livres et lui-même n'a pas... Je me souviens juste d'une interview que j'avais vue où il citait Parménide. Il a 23 ans. En 1963, il cite Parménide à des journalistes. Je me dis, voilà, ce contraste m'intéresse.
Alors, si ce ne sont pas forcément les écrivains qui vous ont donné envie d'écrire, est-ce que ce sont les lieux où vous avez vécu ? Parce que c'est vrai que votre œuvre, comme je le disais en vous présentant au début de l'émission, est nourrie de nombreuses expériences et de voyages.
Qu'est-ce qui donne envie d'écrire ? C'est votre rapport au monde. C'est comment est-ce que vous vous sentez étranger au monde ? C'est ça qui est l'étincelle de l'écriture. C'est le décalage que vous ressentez profondément en vous, entre le monde tel que vous sentez qu'il doit être, comment il faut se comporter, comment les autres sont. D'ailleurs, c'est qui est une illusion, on ne sait jamais comment les autres sont. Et vous, la distance kilométrique que vous sentez qui vous sépare de ça. Donc, ça commence d'abord par une observation des autres, par des fascinations. Que ça soit une fascination pour des écrivains, ça peut être pour des lieux, ça peut être pour des villes, pour des familles. C'est de la fascination, c'est un état d'enfance presque. Vous êtes spectateur, pas du tout omniscient, mais omnisensible du spectacle du monde. C'est ça l'écriture.
Avec des intérêts pour le contraste, comme vous le disiez,
oui.
Pour la différence entre les apparences et l'intimité.
Oui, ensuite, si vous voulez, moi, les thèmes, je commence à les connaître au bout de 13 livres, c'est... tous les malentendus dans les rapports humains. Ça, c'est quelque chose qui me fascine, y compris les malentendus vis-à-vis de soi-même. Le fait que la difficulté que nous avons à nous accomplir, à vraiment faire quelque chose, on peut se mentir longtemps à soi-même jusqu'au jour à se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait pour moi, finalement? Est-ce que la vie que j'ai menée, la vie qu'on m'a dit de mener, la vie que j'ai cru mener en m'imaginant que c'était un choix, en est-ce vraiment un? La personne avec qui je viens de passer 20 ans, l'aimais-je vraiment? Voilà, moi qui me dis peut-être ouvert d'esprit, le suis-je tant que ça? Moi qui me pense être bon, le suis-je tant que ça? Tout cet entre les lignes des relations humaines, cet entre les lignes des apparences me fascine et me donne envie d'écrire. Et c'est un peu toujours les mêmes thèmes qui reviennent.
Et comme vous le disiez aussi, Nicolas Fargue, le contraste entre la couleur noire et la couleur blanche.
Oui, ça c'est un... vous savez, c'est lié à l'enfance. C'est lié à l'enfance.
Et donc, on revient au Cameroun, là ?
On revient au Cameroun, on revient à ma vie aussi, parce que j'ai une vie, j'ai envie de dire, en noir et blanc. Je suis papa d'enfant métis, notamment. Et puis quand vous êtes... c'est des questions qui, en tant que père aussi, vous interpelle tout le temps. Voilà, c'est aussi des choix de vie que vous avez fait, des choix de fréquentation, des choix de lieux où vous avez eu envie de vivre. Ensuite, on parle toujours de la même chose, vous savez, on raconte toujours la même chose. On a des thèmes obsessionnels autour desquels on passe notre temps à rebroder. Moi, c'est comme ça que je vois les écrivains. Vous cherchez en permanence à redire mieux ce que vous tentez de dire depuis le départ. Dans mes 13 livres, il y a le rapport noir-blanc. Dans mes 13 livres, il y a des malentendus hommes-femmes, des gens qui ont du mal à vieillir, des gens qui se mentent à eux-mêmes. En permanence, c'est toujours la même chose. Il y a toujours des voyages aussi. Parce que le voyage est effectivement... Alors, j'aime pas trop la notion de voyage. J'ai envie de dire de se retrouver minoritaire ailleurs. Vous êtes face à vous-même. Et on se ment moins. Ou alors, au contraire, on peut décider de mentir beaucoup plus pour échapper au miroir que vous avez en pleine figure. Voilà, ce sont des thèmes qui ne cesseront de m'inspirer.
Merci beaucoup, Nicolas
Fargue. Merci beaucoup, Catherine. Merci.
Je rappelle le titre de ce nouveau recueil de nouvelles, Attache le cœur, aux éditions POL.
Littérature sans frontières. Catherine Fruchon-Toussaint, Fanny Renard. Le podcast de Littérature sans frontières à réécouter sans limite sur RFI.fr ou sur l'application RFI Pure Radio.